Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Charles-Henri Lavielle, bonjour.
Bonjour.
Qui est responsable avec Franz Olivier des éditions Anacharsis, qui se base à Toulouse, dans le centre-ville. On en parlera avec lui dans quelques instants. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Alors comme c'est les vacances scolaires, je vais surtout vous parler des endroits où vous pouvez emmener vos petits pour écouter des contes, des lectures de contes. Alors comme par exemple à la bibliothèque de la Côte Pavée, qui se situe 125 avenue Jean Rieux. Alors tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires, à 10h30 pour les tout-petits de jusqu'à 3 ans, et puis à 15h30 pour les plus grands de 3 à 5 ans. Le numéro de téléphone, c'est le 05 61 54 72 91. Et puis, si vous habitez plus vers le centre-ville, la bibliothèque du Ranty vous propose, elle aussi, l'heure du conte tous les mercredis, même pendant les vacances scolaires. C'est à 10h30 pour les petits jusqu'à 3 ans et à 16h30, cette fois-ci, pour les plus grands à partir de 4 ans. Alors, la bibliothèque du Ranty se situe 6 rue du Colonel Pellissier, c'est dans le centre-ville. Le numéro de téléphone, le 05 62 27 42 52. Et puis bien sûr, la médiathèque José Cabanis propose également l'heure du conte, tous les mercredis également. Alors c'est à 11h pour les petits jusqu'à de 3 à 5 ans, et les mercredis après-midi à 16h pour les plus grands à partir de 5 ans. Donc c'est au Red Jardin, au Piccolo Teatro. L'accès est libre et gratuit, bien sûr, pour tout ce que je viens de vous dire. Le numéro de téléphone de la médiathèque José Cabanis, section jeunesse, 05 62 27 64 91. Donc n'hésitez pas, mercredi prochain, si en plus il fait pas beau comme aujourd'hui, ça peut être un lieu bien douillet pour écouter une jolie histoire pour vos bambins. Et puis je terminerai cette petite page info en vous rappelant que le MLF a eu 40 ans le 1er octobre dernier, et qu'à cette occasion, un livre assez monumental, assez gros, hein, plus de 600 pages, c'est quand même un sacré pavé, est sorti au mois d'octobre, exactement le 16 octobre. Ça s'appelle Génération MLF 1968-2008, avec beaucoup d'images d'archives, de documents d'histoire, de témoignages de militants, des fragments de vie. Donc c'est à découvrir absolument. C'est voilà, Génération MLF 1968-2008 pour l'anniversaire donc de ce mouvement.
Qui a encore beaucoup de travail.
Oui, mais bon, ça a déjà quand même permis d'avancer un peu, ouais. Mais c'est vrai qu'il en reste beaucoup à faire. C'est très bien que vous dites ça. En plus, vous êtes un homme, ça a du poids, ce que vous dites.
Bon. Page à page, Claire Ambille.
Alors, justement, Charles-Henri Lavielle, cette maison d'édition qui a un nom qui sonne Anacharsis.
Alors, Anacharsis, bon... Pour faire court, Anacharsis, c'est un philosophe mythique de la Grèce antique dont on trouve les quelques traces chez Hérodote. Et en fait, son histoire, c'est un site, donc aujourd'hui, géographiquement à peu près la Russie autour de Moscou, et qui est venu à Athènes, tombé amoureux de la démocratie grecque, et qui après serait revenu dans son pays et aurait été assassiné pour avoir voulu pervertir les mœurs. Voilà. Et de loin en loin, il a été souvent repris à Athènes, à Rome, puis sous la Révolution française avec quelqu'un qui s'appelait le baron von Clus, qui avait adopté comme pseudonyme citoyen Anacharsis, qui a été élu à la Constituante et lui aussi guillotiné. Et puis ça a été repris aussi par l'abbé Barthélemy, qui a créé un petit personnage qui s'appelait le petit Anacharsis, et qui, grâce à ce livre-là, qui était un livre pour apprendre aux enfants la Grèce antique et romaine, a voyagé à travers les pérégrinations de ce jeune petit philosophe en herbe.
D'accord, donc vous avez choisi ce nom par rapport à tout ça. Ça vous a plu, le côté mythique du philosophe
mythique ? Le côté mythique, le côté aventure, le côté de vouloir découvrir son voisin, d'en retirer quelque chose.
C'est un peu aussi la vocation de votre maison d'édition, on va en parler. Donc c'est une histoire de passion, parce que j'imagine que on ne crée pas comme ça une maison d'édition un jour en se levant, après un café, tiens, on va faire ça. J'imagine que vous avez fait des études d'histoire, votre ami aussi, Franz Olivier, qui est responsable responsable aussi de la maison également et a fait des études d'histoire. Vous êtes un passionné donc de tous les deux d'histoire, de littérature. Et j'imagine que c'est cette passion qui vous a fait un jour dire.
Au début, c'était pour une question d'argent, puis on s'est tourné vite vers la passion.
Oui. Ben souvent, passion ne rime pas forcément voilà, avec argent.
Alors, voilà, l'idée, c'était celle-là. C'est-à-dire que nous, on était tous les deux en thèse en histoire. Franz sur la notion de barbare à Byzance entre le 9 et le 12e siècle. Et moi sur les étrangers dans les armées vénitiennes. Voilà, tout ce qui concerne le mercenariat du 14 au 15e siècle. Et on travaillait sur des textes qui, en dehors de leur... de leur rapport documentaire, avait pour nous toute une dimension à la fois littéraire, d'aventure, des notions liées au merveilleux, etc. Et comme on est tous les deux des grands amateurs de littérature, il nous semblait que c'était intéressant de pouvoir amener ces textes qui sont généralement jamais traduits, souvent connus à travers les notes de bas de page de livres d'histoire, de les donner accessibles. Alors sur ces deux aspects-là, c'est-à-dire qu'effectivement, ça garde toujours la dimension voilà, de texte qui amène à de l'information sur l'histoire, de documents d'histoire, mais ils ont aussi cette dimension littéraire, et on avait envie voilà d'amener ces deux choses-là. L'idée donc de départ, c'était de présenter ces textes dans une traduction, parce que pour nous. Un traducteur, c'est aussi un écrivain. Et donc, de pouvoir mettre en place quelque chose, ces textes-là, sur ces deux versions-là. Alors après, on mettait toujours en place une petite introduction contextuelle. Parce qu'effectivement, il faut peut-être pouvoir situer. Et puis, on demandait aux spécialistes, quand c'était un historien qui avait fait la traduction, c'était plus simple. Quelquefois, c'est deux personnes. Parce qu'un historien, même s'il sait lire les textes, il n'est pas forcément un grand littérateur ou un grand traducteur. Donc voilà, quand on demandait à la personne voilà, qui connaissait ce texte d'en dire quelque chose dans une postface, mais qui ne soit pas forcément d'ordre absolument... historique, mais plus peut-être d'ordre affectif, prendre un aspect de ce texte-là, le développer dans son rapport affectif au texte et au sujet, au thème traité. Voilà. En faisant attention que la traduction, elle, soit toujours une traduction de référence, donc on travaille systématiquement avec des gens qui ont cette capacité-là, cette notoriété-là, qui sont vraiment des spécialistes de la traduction ou du texte en question et qui puissent faire des traductions qui puissent être repris par des étudiants ou par des historiens et qu'il n'y ait pas de trahison dans ce qui est dit.
Ou par quelqu'un qui s'intéresse. Hein.
Ou par quelqu'un, voilà.
Voilà, c'est rendu accessible. Parce que c'est vrai
le texte est donné.
C'est pointu, hein, des fois.
Le texte est donné à lire pour lui-même. Genre, quand c'est pointu, ça l'est pas. Un mercenaire du 14e siècle qui raconte son épopée, il n'y a rien de pointu historiquement. C'est pas forcément un intellectuel de haut vol.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'idée des gens, ça peut leur faire peur de se dire un bouquin, oulala, qui raconte de l'histoire. Bon, c'est. Voilà, ça peut leur. Là, au moins, c'est rendu accessible et puis bon,
l'idée c'est que ça puisse se lire comme un roman. Que ça puisse se lire comme un roman. Complètement faire abstraction de la dimension historique du texte. Alors comme un roman d'aventure, quelqu'un qui traverse, on a quelques textes de personnes qui, comme le texte dont je vous parlais, les Almogabres de Ramon Muntaner, c'est un texte de mercenaires du 14e siècle. Ce mercenaire-là. Ces personnes-là, ils traversent toute la Méditerranée, ils se battent, ils pillent, ils rencontrent, il y a des histoires d'amour, etc. Bon, finalement, qu'est-ce que ça a d'historique? Ça peut être... c'est la vie des hommes, quoi.
Oui, tout simplement. Donc, comme je le disais, donc, cette maison d'édition est dans le centre-ville, hein, plein centre-ville, 3 rue Pérolière, une jolie rue d'ailleurs, dans le centre-ville de Toulouse. Elle a été créée en juillet 2000, donc elle a tout juste 8 ans. Elle vient de fêter ses 8 ans.
Oui, enfin, on avait créé l'association au début. Les premiers ouvrages sont sortis en juin 2002.
2002. Ouais. Ah oui, d'accord. Et donc le site, vous avez un site hein, qui est à jour, parce que j'ai posé la question avant l'antenne. Donc c'est www.edition-anacarsis.com. Et puis un numéro de téléphone, c'est le 08 71 46 79 63. Bon, on rappellera ses coordonnées à la fin de l'émission, mais c'est pour vous
donc
situer
un peu.
Le site
n'est pas à jour, puisque en fait maintenant tous les 08 sont passés en 09. Donc c'est le 09.
Ah, c'est pas 08
mais... Non, mais voilà.
09
Oui, c'est 09 maintenant.
09 71 voilà. 46 79 63. Bon, Très bien. Et donc je continue avec. On va parler un peu donc des domaines que vous traitez un peu entre les voyages, les témoignages. On peut en parler un peu avant d'écouter quelque chose que vous avez choisi vous spécifiquement. Vous nous expliquerez d'ailleurs pourquoi après.
Non, en fait, on a trois collections. On est parti de cette idée de départ là, de proposer ces textes. C'est une collection qu'on a appelée. D'un autre titre énigmatique, Famagouste.
Oui, ça voilà. C'est un nom.
Alors Famagouste, c'était c'est une ville de Chypre qui était un petit peu un lieu de départ vers les croisades et vers l'Orient au Moyen Âge et qui était un petit peu à la confluence du monde grec, de toute la Méditerranée. C'était à la fois un lieu de commerce et de tous les commerces mercenaires. De la chair, voilà. Donc c'était une espèce de lieu assez étrange de la Méditerranée, et voilà. Donc ça, en même temps, ça peut faire fourre-tout. Et du coup, voilà, c'est tous ces textes-là qui tournent autour de ces thèmes, puisque comme on était plutôt spécialiste de la Méditerranée, on a commencé par des textes issus du bassin méditerranéen. Donc on a beaucoup de catalans, on a du grec, beaucoup de grec byzantin, et puis après on s'est un petit peu écarté de cette zone géographique-là pour faire des sagas islandaises, pour travailler sur des textes natoiles d'Amérique du Sud, voilà. Bon, et voilà, c'était un petit peu la collection principale. Ça, c'est la collection Famagouste. Et ensuite, voilà, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que on avait été intéressé par lier à travers ces textes une dimension littéraire et une dimension de document, eh ben, on est allé vers ces, on a essayé d'aller vers ces deux pôles-là. Donc, on a créé une collection essais, qui traite essentiellement d'anthropologie et d'histoire, et une collection roman contemporain. Voilà, dans lesquels, après, les thématiques liées à l'aventure, au voyage, au merveilleux se retrouvent dans ces textes de romans contemporains.
C'est un peu la patte de votre maison d'édition, ça, le côté voyage, merveilleux.
Oui, mais après, l'idée, c'est aussi un questionnement, du moins dans la collection Famagouste. C'est-à-dire que moi, je crois profondément à l'intemporalité des comportements et des passions. Et finalement...
Vous croyez que rien n'évolue, alors?
En tous les cas, la notion de progrès à part la notion de progrès technique, la notion de progrès humain, il me semble que c'est plutôt un combat de tous les jours que...
Pour conserver les acquis.
Conserver les acquis ou en acquérir d'autres, mais si on se repose dessus, ils partent vite. Voilà, et l'humanité et puis les acquis sociaux par exemple. Bon, mais
c'est un vaste débat.
Voilà, on en parlera une autre fois. Et donc c'est toujours un regard différent qui est offert au lecteur, un regard d'une une personne qui a un souci amoureux au 4e, au 5e, ou au 14e, ou au 12e siècle. Je veux dire, cette violence-là, il y a toujours une manière de l'aborder, une manière de la voir, et peut-être que c'est le pas de côté qui permet d'envisager les choses un petit peu autrement. Et l'expérience des hommes, de toute époque et de tout lieu, voilà, c'est toujours un apport supplémentaire.
Oui, c'est une belle façon de voir les choses.
Et donc voilà, et après on a créé la collection en anthropologie aussi, parce que c'est aussi la dimension des sciences humaines qui nous intéresse, et notamment une collection qui aujourd'hui sur l'anthropologie vient questionner la manière dont les anthropologues et les ethnologues ont envisagé tout un tas de questions qui sont tout le temps au centre des débats, mais qu'on interroge scientifiquement assez peu, comme la notion de culture, la notion d'ethnie, etc., et qui vient un petit peu battre en brèche un petit peu ce qui a été le fer de lance de la pensée anthropologique française, qui était le autour du structuralisme. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose, une collection qu'on a montée autour d'un professeur à l'EHESS qui s'appelle Alban Binça, et qui est pour une espèce de réintroduction de la notion de temporalité et d'histoire dans l'anthropologie, et un questionnement sur ces notions-là. Voilà, donc on a sorti un texte très important qui s'appelle ce sont des recueils d'articles de Jean Bazin, qui était un anthropologue qui est mort aujourd'hui, mais qui avait été un des premiers à mettre en place cette réflexion qui s'appelle Des clous dans la Joconde, qui interroge aussi notamment
Les
par
clous
rapport
dans la Joconde.
À la muséographie, à la notion de fétiche. Voilà. Donc une réflexion pour un petit peu repenser l'anthropologie et l'ethnographie aujourd'hui.
Voilà.
Donc, tout ça donne pour nous une cohérence, c'est-à-dire qu'on était parti de quelque chose qu'on a voulu fusionner, littérature et sciences humaines à travers les textes qui étaient des textes historiques, et ensuite on a éclaté ce qu'on avait mis en place, et donc d'un côté le roman, et de l'autre côté les sciences humaines.
Ah, voilà, vous avez séparé.
Voilà.
Et alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme, présentez-nous, voilà, ce qu'on va écouter. Là,
on va écouter
ou
un
alors,
morceau.
Vous ne le présentez pas, voilà. Mais vous dites pourquoi, alors. Voilà.
Je le présente pas, vous écoutez, puis après, parce que en exergue du catalogue, là, de cette année, on avait mis une citation d'un groupe de punk rock new-yorkais qui s'appelle les Ramones, et c'était I don't wanna be buried in this cemetery. Ça voulait bien dire ça, puisque nous, on édite beaucoup de morts, donc, et ces morts, on les fait revivre, donc voilà. Et puis là, c'est un autre morceau. Mais c'est un quiz, voilà. Essayez de voir qui c'est, je vous le dirai
alors,
à la fin du morceau.
Si un auditeur connaît cette chanson, bah, il peut appeler au 05 61 80 40 40 et puis il nous dira si c'est ce qu'il pense et Charles-Henri lui dira si c'est bien la bonne réponse. I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat at barber shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.
There's nothing else to do.
Dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you. Look out.
They'll tear your insides out. 'Cause everybody hates a tourist.
'Cause everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie.
Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath.
You will never
understand
how it feels
to live your life
with no meaning or control.
And with nowhere
go.
You're amazed
that
they exist.
And they burn so bright
while you
can only wonder why. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some fags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. 'Cause when you've laid in bed at night watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do.
You'll never fail like common people.
You'll never watch your life slide out of you.
And dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do.
Et Eh bien, après ce morceau bien revigorant.
Voilà, donc il n'y a pas d'appel.
Il n'y a pas eu d'appel, mais comme m'a dit Alex, notre technicien, ça peut arriver jusqu'à la fin de l'émission. Bon, donc l'émission n'étant pas finie, il y aura peut-être quelqu'un qui saura ce qu'est ce morceau.
Très bien, le nom du chanteur est surtout, je peux donner un petit indice. Ah. Ce n'est pas un véritable chanteur, il était le héros d'une série télévisée extrêmement connue.
Ah voilà. Oui
ouais.
Eh bien, je suis impatiente. D'abord, vous nous le direz avant de quitter l'antenne, hein, par contre.
Absolument,
je veux savoir. Alors, on en revient donc à votre catalogue, hein, puisqu'on parlait justement du catalogue avec ce morceau. Hein, vous nous en parliez à l'instant. Donc, par exemple, si on prend le catalogue 2008, là, de cette année, qu'est-ce qui est paru récemment les titres un peu phares
Les titres un peu phares. Donc, dans la collection roman, on suit un auteur italien qui était quelqu'un qui a été scénariste d'Hugo Pratt, qui faisait partie du groupe de Venise, voilà, qui a travaillé, qui s'appelle Alberto Ungaro, dont on avait sorti un ouvrage qui a fait, qui a eu un certain succès au point de vue national, et qui s'appelle La Taverne du Doge Loredane, qui est vraiment un texte tout à fait surprenant, puisque c'est entre Borges et Alexandre Dumas, c'est vraiment une revisitation de ce que peut, voilà, ce qu'on appelle parfois abusivement la littérature populaire. C'est vraiment un texte absolument magnifique. Et donc là, cette année, on a sorti un deuxième texte d'Alberto, on en sort un au mois de mars. Donc le deuxième texte qu'on a sorti, c'est Le Secret de Caspar Jacobi. Et on sort la partita en mars prochain. Voilà, ça c'était la partie roman.
Donc, la partie roman. Voilà.
Voilà, on a sorti un texte. On a un domaine assez important de domaine catalan, notamment un texte qui s'appelle Le Miroir, qui est assez surprenant puisqu'il est c'est un texte qui regroupe un petit peu tous les poncifs de la misogynie occidentale. Donc vous parliez tout à l'heure du MLF, mais c'est assez saisissant parce que c'est une personne qui se ridiculise elle-même à être dans ce registre là en fait. C'est un texte édifiant pour un neveu, et en fait il raconte les déboires de sa vie affective et la manière dont il fait, c'est-à-dire de mettre tout sur le dos des femmes qu'il a rencontrées, et puis d'après de l'étendre aux femmes en général, on devient tellement ridicule, mais en même temps est très fort dans la mise en place de tout ce qui va être les poncifs de la misogynie en Occident. Voilà, c'est un texte du 15e siècle. Oui, c'est assez cru.
Un cadeau
en plus
de Noël à offrir.
C'est ça, absolument.
À tout le monde, voilà. À tous les hommes.
Ensuite, on a là, on vient de sortir une saga. On a aussi un domaine islandais dont je vous parlais, la saga, notamment la saga de Rolf
Legend.
Alors, c'est des sagas, c'est-à-dire que la saga, c'est une chose assez étonnante. C'est-à-dire qu'en Islande, entre le 10e, 11e et le 14e siècle, la saga, la plupart du temps, ce sont des sagas anonymes, a été un grand mouvement. C'est-à-dire que tout le monde écrivait un petit peu en Islande. Et donc, ça a donné lieu à une production complètement incroyable et qui est...
Et méconnue.
Méconnue. Il y a Régis Boyer qui est le traducteur là, chez nous, et qui est la personne qui a fait connaître les sagas en France, en tous les cas, et qui a fait vraiment un travail de pionnier dans ce domaine, notamment la saga de Rolf Racki. C'est assez étonnant de voir que ce texte-là a été sorti, a été paraphrasé par un écrivain américain qui l'a appelé la saga de Rolf Racki, et c'est vraiment une paraphrase, que c'est sorti en SF, en science-fiction. Et ce texte a eu vraiment vraiment beaucoup beaucoup de succès dans le monde entier. Et là, nous on a sorti le texte brut,
original.
Et c'est vraiment original. Et c'est vraiment étonnant de voir à quel point même la langue. Enfin, pour moi, le texte est beaucoup plus beau, il est beaucoup plus brut et beaucoup plus dans une écriture beaucoup plus incisive. Voilà. Et les sagas, c'est vraiment cette dimension-là. Alors, il y a plusieurs sortes de sagas. Nous, ce sont les sagas dites mensongères, qui sont vraiment des récits du merveilleux qui donnent lieu, qui ont aussi amené tout l'imaginaire, tout un tas d'imaginaires dans la littérature contemporaine, que ce soit le Seigneur des Anneaux. Toute cette dimension, personnages-là viennent en partie de cette littérature. Donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Et ensuite là, donc on a sorti Les Clous dans la Joconde, donc dans la collection Essai, et puis on réimprime un texte vraiment qui est absolument extraordinaire,
important.
Qui s'appelle Tyran le Blanc, de Johannette Martoreil. C'est la première traduction française Et ce texte-là est un texte qui a inspiré Cervantes pour écrire le Don Quichotte. Il est préfacé par Mario Vargas Llosa, donc le grand écrivain péruvien, qui lui le considère comme le premier roman moderne et qui le compare à Faulkner, à Dumas, dans cette dimension, à cette capacité à créer un monde total. Et c'est la première fois, alors c'est un roman qui à la base pourrait paraître un roman de chevalerie, mais qui en fait le détache totalement de la chevalerie, parce qu'il n'y a plus de merveilleux du tout dans Tyran le Blanc. On est vraiment voilà, dans la conception d'un roman monde où les personnages souffrent, il n'y a pas des personnages qui prennent 400 000 coups de, voilà, du roman, voilà, de chevalerie, il n'y a plus de miracles. On est vraiment, alors c'est à la fois un roman, c'est à la fois une saga historique, c'est à la fois un roman de mœurs, c'est à la fois un roman érotique, c'est vraiment quelque chose de tout à fait d'aventure, parce qu'il traverse toute la Méditerranée.
Ah oui.
Et donc Cervantes, lui, considère, donc il l'écrit dans le Don Quichotte, c'est le meilleur livre, pour moi, c'est le meilleur livre du monde. C'est un des trois livres qui sauve de la bibliothèque de Don Quichotte. Il veut condamner son auteur aux galères pour qu'il ait le temps d'écrire, parce que voilà, dans la conception des galères, on avait le temps d'écrire.
Dans les galères, voilà, on a le temps d'écrire.
On a le temps de penser, en tous les cas. Et c'est vraiment un roman qui a eu un succès absolument colossal, notamment aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon où il a été traduit, et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Il est traduit en chinois, en finlandais, en suédois, en japonais. Et ce texte-là, voilà, de manière étrange, alors ça serait long à raconter, mais en même temps c'est pas si étrange que ça, a en France été complètement inconnu. Et notamment, ben, parce que bon, il se trouve aussi quand même en France par rapport à ce que là, on appelle les langues régionales, il y a toujours un dédain ou voilà, une méfiance, oui, en tous les cas, donc tout ce qui est domaine du catalan, etc.
Voilà, les maisons d'édition ne sont pas toujours prêtes à ouvrir leurs portes à des cultures ou des langues différentes.
Il y a ça, et puis il existait une, alors c'est pas une traduction, mais il existait une adaptation de ce roman qui avait été faite en 1737 par le comte de Caylus, alors qui est chez Gallimard, et quand nous on a proposé ce texte-là, alors qu'il ne fait que 400 pages, celui de Gallimard, que le texte entier, là, il manque une demi-phrase sur le texte original,
là,
qui fait.
Et là, ça fait combien, ouais, parce que là, je vois,
là, il fait 998 pages, voilà. C'est un pavé, mais c'est vraiment.
Je l'ai sous-pesé, il pèse 100 poids, tirant le blanc, il pèse 100 poids.
Voilà, donc c'est vraiment un texte
tout
à fait.
C'est un très beau, en tout cas, c'est une belle couverture également, parce que là, je le vois, j'ai sous les yeux.
C'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature universelle, et c'est vraiment ça qui nous a, voilà, poussé à l'éditer malgré la difficulté financière notamment.
Tout à fait. Comme il nous reste malheureusement peu de temps dans vos projets, donc vous avez une nouvelle collection, la collection essai qui va être un petit peu.
C'est-à-dire que dans la collection essai, comme je vous disais tout à l'heure, on travaille sur un nouveau questionnement de l'anthropologie dans ce qui a été l'anthropologie structuraliste. Il y a eu la grande collection Terre humaine qui était un petit peu une application de la pensée du structuralisme, et de la même manière, on va essayer de mettre en place une collection dans laquelle on mettra en pratique les applications théoriques de ce qu'on appelle ce qu'Alban Massa veut appeler l'anthropologie de l'action.
Voilà, études donc de terrain.
Études de terrain, effectivement, études de cas assez spécifiques. Donc ça c'est un des projets, mais après on a le projet de continuer tous ces textes-là.
Alors, on rappelle que vous serez présent au Salon du Livre au Centre Pierre Baudis le 15 et 16 novembre prochain, hein, parce qu'il y aura plus d'une soixantaine d'éditeurs, des auteurs, etc. Donc, Anacharsis y sera.
C'est bon.
On rappelle le numéro de téléphone, donc c'est 3 rue Pérolière, édition Anacharsis, au 05 34 40 80 27. Ça, c'est le dernier numéro qu'on vient de me donner, donc voilà. Normalement c'est bon. Le site www.edition-anacharsis.com. Et alors, moi je veux savoir qui c'était.
Voilà, c'était le Capitaine Kirk, William Shatner.
D'accord.
Je trouve que c'est un superbe morceau. Star Trek, voilà.
Bon, on n'aurait pas trouvé. Hein. Enfin, en tout cas, j'aurais pas trouvé. Mais bon. Mais écoutez, merci beaucoup, Charles-Henri, d'être venu nous parler avec passion donc d'Anacharsis et de tous ces superbes livres. Et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur les ondes de Radio Occitanie. Adiciat, c'est bonne semaine à tous.